chers auditeurs, bonjour, merci pour votre fidélité à notre radio et bienvenue pour cette nouvelle édition de nos cours d'histoire, co-présentée avec le site d'information Atlantico. Avant de commencer, un simple rappel, Storia Voce a besoin de votre soutien afin de pouvoir se développer. Nous avons créé une association à but non lucratif, n'hésitez pas à nous soutenir en donnant 10, 5 ou bien même un seul petit euro via PayPal ou par virement bancaire, cela ne vous prendra que quelques clics. Nous comptons sur vous, rendez-vous dans la rubrique Soutenez-nous sur la page d'accueil. Notre association compte sur vous. Olivier Dard, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à Paris 4 Sorbonne. Vous travaillez aussi dans le cadre de ce qu'on appelle l'UMR, l'unité mixte de recherche avec Paris 1 et le CNRS pour le laboratoire en histoire des relations internationales contemporaines et des mondes étrangers. Vous êtes auteur de nombreux ouvrages, directeur de nombreux travaux, et vous venez de publier aux éditions du CERF un dictionnaire du conservatisme avec Frédéric Rouvillois, et Christophe Boutin. Vous rattrapez, Olivier Dard, en quelque sorte un retard. Il existait un retard sur le plan des idées politiques puisqu'il existait un dictionnaire du conservatisme aux États-Unis, il existait un dictionnaire du conservatisme en Allemagne, mais il n'existait pas en France.
Effectivement, il n'existait aucun dictionnaire du conservatisme en France et tout l'objectif de ce dictionnaire que nous avons donc publié en novembre dernier a été de combler cette lacune en permettant à toute une série d'auteurs, une centaine d'auteurs qui sont très largement des universitaires mais pas uniquement, de pouvoir au fond plancher sur 250 entrées de ce conservatisme que nous avons essayé de définir sous la forme d'un dictionnaire. Pourquoi d'un dictionnaire? Bien sûr parce qu'il n'en existait pas en France, mais également parce que la définition du conservatisme peine à pouvoir être saisie à partir d'une simple synthèse.
Alors, précisément, vous n'allez pas pouvoir me répondre à la toute première question. Ce cours d'histoire, vous l'aurez compris, est consacré au conservatisme. Comment définir, malgré tout, il y a une entrée sur la pensée, sur le conservatisme, la pensée du conservatisme. Comment définir le conservatisme, Olivier Dard? Existe-t-il une définition simple du terme? Est-ce une réalité polymorphe et ne faudrait-il pas parler des conservatismes?
Oui, alors soyons clairs, il n'existe pas de définition simple du conservatisme. Ce n'est pas non plus une raison, évidemment, pour dire que toute définition est impossible. Alors, je reprendrai volontiers à mon compte votre expression. Le conservatisme est polymorphe et définir le conservatisme, c'est d'abord essayer de l'appréhender dans un certain contexte. C'est-à-dire, ce que nous avons essayé de faire, c'est au fond de retracer du point de vue de l'histoire des idées, mais pas seulement d'ailleurs du point de vue de l'histoire des idées, parce qu'il y a également des entrées sur les forces politiques conservatrices ou sur un certain nombre de politiques dites conservatrices. On a essayé de retracer au fond l'histoire du conservatisme d'abord sur pratiquement deux siècles, plus de deux siècles. Ça, c'est un premier élément important. Deuxième élément important, nous avons essayé d'appréhender ce conservatisme principalement dans un cadre français, bien entendu, mais ce cadre français ne suffit pas à comprendre le conservatisme, même en France, dans la mesure où comprendre le conservatisme impose de le remettre en perspective à l'échelle européenne, au moins, ou transatlantique, ce qui explique que nous avons un certain nombre d'entrées, notamment sur la Grande-Bretagne, sur les États-Unis, et j'ajouterais que si on pouvait avoir un petit regret sur ce dictionnaire, même s'il fait déjà 1072 pages, c'est de ne pas avoir finalement suffisamment d'entrées, à part des entrées sur des auteurs, des entrées véritablement sur des pays étrangers. Car le conservatisme, pris dans sa diversité, est incontestablement une tradition intellectuelle, politique, de première importance, même si cette tradition a été souvent beaucoup trop méconnue.
Je cite Philippe Benneton, qui est l'auteur absolument. De l'article « Pensée conservatrice ». La bonne formule du conservatisme doit aussi tenir compte des singularités historiques et elle ne saurait être qu'inachevée. Il faut toujours recommencer, disait Bernanos.
Oui, c'est vrai. Alors Philippe Benneton est effectivement un de nos auteurs très importants. Il est également l'auteur d'un que sais-je tout à fait passionnant sur effectivement le conservatisme. Et ce conservatisme tel que le définit Philippe Benneton est effectivement un conservatisme qui doit perpétuellement, certes, être redéfini, mais qui en même temps se définit, il faut bien le dire, avec un certain nombre d'invariants.
Alors, quelles sont précisément les origines du conservatisme ?
Alors, les origines du conservatisme, dans le cas français, bien entendu, elles remontent à la Révolution française. Elles remontent à la Révolution française, pourquoi ? Parce que dans le rapport au conservatisme, il y a toute l'importance de la notion de permanence. La notion de continuité, ne pas détruire. Et il est évident que la Révolution française, on parle aussi de révolution conservatrice dans le dictionnaire, mais c'est un courant allemand. La Révolution française est incontestablement une rupture, et une rupture absolument fondamentale qui, bien entendu, a toute son importance dans la relation à l'histoire du conservatisme. Cela étant, ce conservatisme, s'il naît véritablement avec la Révolution française, il va se développer tout au long du XIXe siècle et même du XXe siècle. On a trop souvent tendance à considérer que le XIXe siècle serait, au fond, pour les idées conservatrices, une période essentiellement négative, parce que on la juge, au fond, à partir de ce qui est l'histoire d'un échec. L'histoire du conservatisme, c'est l'histoire d'un échec, incontestablement. C'est aussi l'histoire ensuite d'un silence. Frédéric Rouvillois parlait du conservatisme caché, souvent, et nous avons repris la formule dans l'introduction. Histoire d'un échec, pourquoi ? Parce que au XIXe siècle, il existe en France un certain nombre de courants et de figures conservatrices. Hein, le premier grand journal conservateur, c'est justement Le Conservateur de Chateaubriand, et tout au long du XIXe siècle, et pas seulement d'ailleurs à l'époque de régimes comme la Restauration, il y a une tradition conservatrice qui se développe, qui est assez importante, à la fois sur le plan politique et institutionnel, bien entendu, mais également sur le plan religieux. On a tendance à beaucoup trop négliger toute l'importance du catholicisme social, notamment de tous les débuts de ce qu'on a pu appeler le corporatisme également, pour justement tenter de faire pièce au développement du libéralisme, du capitalisme que le conservatisme a combattu. Simplement, après les débuts d'une Troisième République, qui est présentée par certains comme une république conservatrice, le conservatisme échoue face à la République des Républicains, et il échoue en particulier aux élections de 1885. L'Union conservatrice, qui est une sorte de cartel électoral mêlant évidemment un certain nombre d'acteurs et de forces politiques variées, mais qui s'oppose en même temps à ce qu'on a pu appeler la République ferriste, ou du moins les héritiers directs de Ferry, échoue à ce moment-là, et il va se trouver ensuite emporté ce conservatisme dans l'affaire boulangiste qui vient peu après. Et cela explique que par la suite, au fond, le mot conservateur, conservatisme, dont Thierry Mournier disait que c'était un mot qu'il commençait mal, hein, un mot qui commençait mal, il n'est d'ailleurs pas le seul à l'avoir dit, Léon Daudet aussi, un mot qui commençait mal, par conséquent, on ne se revendiquait plus du conservatisme. Mais est-ce à considérer au XXe siècle, et même au XXIe siècle d'ailleurs, que parce que le conservatisme n'est plus employé ou revendiqué comme tel, il n'existerait pas ? Évidemment, la réponse est négative à cet égard.
Alors, nous allons revenir sur... vous avez présenté en quelque sorte l'âge d'or du conservatisme, le 19e siècle. Je voudrais quand même revenir un peu dans le temps, à la période de la Révolution française, puisque vous avez bien expliqué que la Révolution française joue un rôle fondateur dans le conservatisme. Est-ce à dire qu'il n'y avait pas de conservateurs dans la société d'Ancien Régime ?
Alors, tout dépend de ce qu'on appelle effectivement conservateur et conservatisme. On pourrait très bien considérer, si on considère ou si on limite plutôt le conservatisme à une forme d'immobilisme, ce qui n'est absolument pas notre définition, que effectivement à la fin de l'Ancien Régime, il y a tout un débat pour savoir dans quelle mesure on essaye ou non de réformer ce que l'on appelle, ce qu'on a appelé plutôt l'Ancien Régime. Et à cet égard, on pourrait assimiler au conservatisme tout l'étonnant d'un refus de la réforme. Mais en même temps, comme ces réformes sont à ce moment-là prônées par un certain nombre de monarchistes, c'est un peu l'histoire du chat qui se mord la queue, puisque de toute façon, cela reviendrait à dire qu'il y avait finalement des monarchistes qui n'étaient pas du tout conservateurs. Et j'insiste sur un point qui est très important, c'est que le conservatisme, ce n'est pas l'immobilisme. Je disais tout à l'heure que le conservatisme, c'était la renvoyer à la notion de permanence. C'est effectivement extrêmement important, mais vouloir conserver, vouloir garder un certain nombre de traditions, cela ne signifie pas refuser tout changement, toute mutation. Le conservateur ne croit pas au progrès comme y croit le progressiste, c'est-à-dire qu'il ne croit pas que le progrès, au fond, est bon en soi, et qu'il faut absolument changer les choses pour les changer, parce que les choses seraient censées mieux aller après le changement. En même temps, refuser, j'allais dire, ce que d'aucuns ont pu appeler en Grande-Bretagne le saut dans l'inconnu, le saut dans le noir, à propos de l'élargissement du droit de suffrage, ne signifie pas que les conservateurs ne soient pas capables de s'adapter à leur temps. Et puisque j'évoquais incidemment la Grande-Bretagne, et notamment la figure de Disraeli, la grande figure du conservatisme britannique, n'oublions pas que ce sont les conservateurs britanniques qui vont élargir le droit de suffrage en Grande-Bretagne avec la loi de 1867, prenant au fond le risque d'intégrer les masses à la politique pour essayer de construire justement les bases d'une monarchie conservatrice à l'anglaise. C'est tout ce qu'a entrepris de faire en Grande-Bretagne Disraeli ou Bagehot ou un certain nombre d'autres figures autour de la reine Victoria. Alors, pour revenir et pour conclure sur la Révolution française, ce qui me paraît intéressant, c'est de souligner qu'elle est, cette Révolution française, incontestablement une rupture. Et pourquoi, au fond, est-elle à la fois une rupture et sans doute l'acte de naissance du conservatisme? C'est parce que, me semble-t-il, c'est la première fois avec la Révolution française, au fond, qu'un certain nombre de doctrinaires politiques, et on pense bien entendu aux conventionnels, à Robespierre, entre autres, bien entendu, hein, ont voulu véritablement opérer une refondation politique sur la base d'une table rase, d'une tabula rasa. Et le conservateur ne peut pas, ne saurait être, au fond, partisan d'une table rase. Ce qui explique également qu'au XXe siècle, le conservateur va être fort généralement plutôt hostile au régime totalitaire, bien entendu communiste, mais pas seulement communiste. On a des conservateurs, on le sait, tout à fait hostiles au national-socialisme en Allemagne.
À vous entendre sur cet équilibre entre le conservatisme et la modernité, on se souvient un peu du slogan qui a fait florès, tradition et modernité. Le conservatisme, c'est une forme de traditionnalisme aussi. Alors, le terme traditionnalisme apparaît dans le dictionnaire.
Bien entendu. Alors, tout dépend ce que l'on va appeler le traditionnalisme. C'est-à-dire que nous sommes à chaque fois effectivement en présence de mots très piégés. Le conservatisme ne peut pas être au fond une forme de traditionnalisme telle que vont l'entendre les tenants de ce qu'on appelle la tradition. Que ce soit la tradition à la Guénon ou ce qu'on a pu appeler le traditionnalisme catholique. De même que le conservatisme ne peut pas être assimilé non plus à la réaction. C'est-à-dire que le conservateur ne va pas considérer qu'un retour en arrière est possible, et possible en l'état. Et de ce point de vue, d'ailleurs, les conservateurs ont été très régulièrement accusés par les réactionnaires d'être des mous, des modérés, comme on disait dans la France de l'entre-deux-guerres à leur égard.
D'où la critique de Daudet dont vous parlez tout à l'heure.
D'où la critique de Daudet dont je parlais, d'où la critique de Maurras, etc. Mais en même temps, les conservateurs, qui se retrouvent toujours sur une sorte de ligne de crête, si vous voulez, cherchent à la fois à conserver ce qui peut l'être dans une tradition qu'il juge nécessaire de se voir se perpétuer, tout en considérant que, je n'ose dire en même temps, il s'agit de s'adapter à une évolution qui est inéluctable. Et on retrouve au fond, dans le conservatisme, une véritable ambivalence. Une ambivalence, bien entendu, par rapport au progrès, une ambivalence par rapport à la technique, une ambivalence par rapport à l'évolution de l'économie, etc. Les conservateurs, à la fois, ne sont pas détenants, encore une fois, absolus du progrès, sûrement pas, et pas non plus du mouvement, mais les conservateurs ne sont pas forcément des gens bloqués. Ils vont pouvoir accepter le mouvement à condition d'avoir le sentiment qu'ils peuvent le contrôler et que ce mouvement va au fond dans une direction qui leur convient.
Est-ce qu'il existe un conservatisme de gauche, Olivier Dard? Nicolas Sarkozy, dans sa fameuse campagne, sa première campagne présidentielle, fustigeait les conservateurs des avantages acquis au cours de l'époque mitterrandienne. C'est ce qu'on entend par conservatisme de gauche?
Non. Alors effectivement, je vois très bien à quoi vous faites allusion à propos de Nicolas Sarkozy. Bon, la formule, évidemment, se veut polémique, politicienne, tournée effectivement vers la défense de ses avantages, et il ne manque plus qu'un mot pour compléter le petit panorama que vous dressez, c'est le mot corporatisme. C'est-à-dire que le mot corporatisme est aujourd'hui employé sur un mode systématiquement négatif, visant à considérer ou à dénoncer plutôt des avantages acquis ou prétendument acquis par tel ou tel groupe social. Non. En revanche, qu'il y ait un conservatisme de gauche, oui, nous y avons consacré une entrée, parce que toute la gauche n'est pas forcément aussi progressiste qu'on le penserait. Et on peut penser également, en disant cela, à un certain nombre d'auteurs dont il est question, effectivement, dans le dictionnaire, Jean-Claude Michéa, bien entendu, mais plus en amont encore, George Orwell, par exemple. George Orwell, qui est au fond celui qui parle de ce qu'il appelle la common decency, hein, ce qui reste au fond aux prolétaires, et j'invite nos auditeurs à relire 1984, hein, le livre tout à fait extraordinaire de George Orwell, où justement, il ne parle pas évidemment véritablement de la question du conservatisme, mais il explique en quoi en même temps ces prolétaires, cette dernière classe de cette tripartition qui est celle de Océania, dont il, qui est cette espèce de d'État-empire qu'il met en scène dans 1984, au fond, ces prolétaires sont sans doute des agents d'une certaine forme de conservation d'un passé dont Orwell se fait le défenseur.
Alors, dans la galaxie de compréhension du conservatisme, il y a un mot que nous n'avons pas encore évoqué, et Dieu sait qu'il est important, c'est le mot de libéralisme. Le libéralisme et le conservatisme sont très souvent associés, notamment en Angleterre, mais pas en France.
Alors, associés en Angleterre, oui et non. Oui et non, parce que je rappellerai qu'au XIXe siècle, il y a un parti conservateur, mais il y a aussi un parti libéral. Et que les deux ne résonnent pas, c'est le moins qu'on puisse dire, sur les mêmes bases. On parlait de Disraeli tout à l'heure, le grand rival de Disraeli, c'est William Gladstone. Donc il y a effectivement, me semble-t-il, une distinction qui existe entre conservatisme et libéralisme, une distinction que l'on retrouve d'ailleurs en France, puisque le libéralisme peut être aussi assimilé à une forme d'héritage de gauche. On pourrait démontrer, sans trop de difficultés, que la Révolution française accouche véritablement du libéralisme. Cela étant, et là vous avez raison, c'est que parler de la question du libéralisme invite aussi, comme pour le conservatisme d'ailleurs, à savoir ce que l'on met derrière. De quoi parle-t-on quand on parle de libéralisme? Et là, bien entendu, les mots ont leur sens et les auteurs ont leur importance. Le libéralisme, par exemple en France, tel qu'il s'est construit au XIXe siècle, si on songe à des gens comme Constant ou des gens comme Alexis de Tocqueville, entre autres, s'est construit au fond dans une logique qui est celle de la résistance au pouvoir. De la résistance au pouvoir ou aux excès de l'autorité. Et effectivement, il y a dans cette définition du libéralisme un rejet, bien entendu, d'un héritage absolutiste, mais il y a aussi, surtout au XIXe siècle, et c'est ce qui joue un rôle très important, un rejet des évolutions de la Révolution française, et en particulier de tout l'épisode de la Terreur. Et effectivement, dans cette perspective-là, une articulation entre libéralisme ainsi entendu et un certain discours conservateur est effectivement compatible, bien entendu. Il est compatible et il va d'ailleurs exister à l'échelle française pendant des décennies. Et on retrouve cette espèce d'alliance ou d'alliage entre libéralisme et conservatisme, par exemple dans ce qu'on a pu appeler à la fin des années 30 le néolibéralisme naissant, qui naît en 1938 en France à l'occasion du colloque Lippmann, où on voit un certain nombre de libéraux, français et étrangers d'ailleurs, de néolibéraux, se réunir à Paris pour d'un côté dénoncer ce qu'ils appellent le libéralisme manchestérien, en même temps espérer une refonte d'un libéralisme autour d'un néolibéralisme visant à défendre les sociétés européennes contre les dangers du totalitarisme. Mais il est clair que ce libéralisme dont nous parlons n'est pas le libéralisme tel que nous l'entendons aujourd'hui, en particulier dans le monde anglo-saxon, c'est-à-dire au fond un libéralisme tourné autour de la question du marché, de l'exclusivité du marché, où il n'est plus question, au fond, véritablement du politique, mais d'abord d'un primat de l'économie.
Alors nous arrivons, Olivier Dard, peu à peu au terme de cette émission. Deux autres questions. Généralement, je souhaite terminer l'émission avec un angle beaucoup plus contemporain. Il y a un retour du conservatisme en France. Pourtant, il ne semble pas bénéficier d'une légitimation morale, c'est ce que vous écrivez, ni d'une validation par les urnes. Est-ce que le conservatisme est impossible en France, pour reprendre une expression qui a été donnée par François Huvelin, un des commentateurs de la vie politique?
Oui, un des commentateurs de la vie politique et un de nos contributeurs d'ailleurs au dictionnaire. Alors, conservatisme impossible, la formule de François Huvelin effectivement est bien connue. Je ne sais pas, conservatisme caché sans doute. Bon, dans le cas de la France, est-ce que le conservatisme revient? Bon, nous avons entamé notre introduction en disant que le conservatisme est à la mode. Bon, c'est une espèce effectivement à la fois d'accroche, de petits regards, de petits clins d'œil vis-à-vis du lecteur, mais c'est aussi, me semble-t-il, au-delà de ces deux éléments, un moyen aussi pour nous d'insister sur, malgré tout, un changement qui est en train de s'opérer, une mutation qui est sans doute en train de s'opérer, car je ne sais pas si le conservatisme a un avenir important en France. Ce qui est en même temps incontestable, c'est qu'on en parle et qu'on en parle beaucoup. Un certain nombre d'auteurs étrangers ont été traduits, Roger Scruton, on parle régulièrement du conservatisme, on en a beaucoup parlé au moment de la campagne de la primaire de François Fillon, qui d'ailleurs ne s'est lui-même pas défini comme un conservateur, même si un certain nombre de tenants du conservatisme ont voulu se reconnaître en lui. Et on en a reparlé récemment avec l'élection de Laurent Wauquiez à la tête des Républicains. Je pense que la question du conservatisme se pose aujourd'hui avec une incontestable acuité, au-delà, j'allais dire, des éléments dont nous avons parlé. C'est-à-dire que il me semble que nous sommes aujourd'hui à un tournant où un certain nombre de questions, et notamment une question qui est très souvent posée aux conservateurs, que voulez-vous conserver ? Cette question se pose, et se pose sur des enjeux qui me paraissent essentiels, je n'en prendrai qu'un seul, c'est tout le débat sur la question du transhumanisme. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand on s'interroge sur ce qu'il faut ou non conserver, et qu'on observe ce que signifie un certain nombre de ces projets transhumanisme, qu'on appelle communément des projets d'homme augmenté, on s'interroge au fond sur la question de la conservation de l'homme. Ce n'est quand même pas rien. Et est-ce qu'on peut au fond envisager sereinement un avenir d'un homme qui serait un homme augmenté? Je crois que c'est une vraie question qui justement nous invite à ne pas ranger le conservatisme dans les accessoires du passé ou de l'archaïsme, mais qui en fait quelque chose de profondément actuel.
Merci beaucoup, Olivier Dard. Je renvoie nos auditeurs donc à votre dictionnaire du conservatisme, Frédéric, que vous avez dirigé avec Frédéric Rouvillois, Christophe Boutin, paru aux éditions du Cerf, une somme absolument magistrale que toute personne qui s'intéresse aux idées politiques se doit d'avoir dans sa bibliothèque.
Merci beaucoup.
Merci à vous.